Géopolitique. Chantal Leroux.
Bonjour à tous. La campagne présidentielle américaine est entrée dans sa dernière ligne droite. Une élection pas comme les autres, avec ce match au départ inattendu entre Hillary Clinton et Donald Trump. Ces dernières semaines, la candidate démocrate distançait nettement son rival républicain dans les sondages. Depuis quelques jours, tous les deux sont au coude à coude. Mais faut-il croire les sondages? Donald Trump peut-il une nouvelle fois créer la surprise et l'emporter? Avec quelle stratégie jusqu'au 8 novembre prochain? Où se jouera l'élection et sur quel thème? Nous allons faire le point sur la campagne et tenter de comprendre les ressorts de cette présidentielle américaine avec nos trois invités. François Durper, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l'université de Cergy. Avec nous également dans ce studio, Philippe Golub, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de relations internationales et d'économie politique internationale à l'université américaine de Paris. Et puis Jean-Éric Brana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, maître de conférences à Paris 2 à Sas, et vous connaissez bien le parcours d'Hillary Clinton et de Donald Trump puisque vous leur avez consacré à chacun un livre. Première question à tous les trois, est-ce qu'il est possible, à 2 mois du scrutin, de faire un pronostic? Jean-Éric Brana.
Je vous dirais que ce sera soit Donald Trump, soit Hillary Clinton. Et
ah, vous prenez des risques.
Vous voyez, hein, c'est à peu près ça. Non, bien sûr qu'il n'est pas possible. On est dans un scrutin très serré. Et on a cette année un événement assez inédit, c'est que les deux candidats sont extrêmement impopulaires. C'est-à-dire que les Américains n'ont envie de voter ni pour l'un, ni pour l'autre. Et que le troisième candidat qui pourrait émerger, puisqu'il y a toujours un troisième homme aux États-Unis, n'émerge pas. Donc ni Jill Stein du Parti Vert, ni Gary Johnson pour les libertariens ne fait le moindre effet dans cette campagne. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'enthousiasmant pour les Américains et la plupart d'entre eux se demandent même s'ils vont aller voter le 8 novembre. Ce qui est absolument la question qu'il faut se poser aujourd'hui.
François Durper, vous aviez été un des premiers en France à pronostiquer la victoire d'Obama en 2008. Là, aujourd'hui, c'est plus compliqué pour vous de faire un pronostic?
On peut faire un pronostic. Si on... Hillary Clinton est plutôt favorite par rapport à Donald Trump. Maintenant, l'élection, elle n'est pas jouée 2 mois avant. Je pense qu'il y a 3 atouts pour Donald Trump. Le premier, c'est qu'il surfe sur quelque chose qui n'est pas seulement américain, qui est une poussée de nationalisme populiste dans beaucoup de sociétés. On le connaît en Europe, c'est valable pour l'Amérique du Nord. Et sur cette posture anti-système. Le deuxième, c'est la prime à l'alternance. On sait qu'il est difficile de succéder à un président démocrate quand on est démocrate, à un président républicain quand on est républicain. Puis la troisième, c'est la fragilité de son adversaire, de Hillary Clinton. Mais pour le moment, pourquoi je dis que Hillary Clinton est favorite? Parce que Donald Trump ne fait pas une très bonne campagne, mais la double, on va dire, épée de Damoclès sur la tête d'Hillary Clinton, eh bien, c'est que Donald Trump se mette à faire une bonne campagne. C'est-à-dire que il parvienne à se présidentialiser. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'a pas un indice de présidentialisation très fort chez les Américains. Et la deuxième, c'est qu'il se concentre sur les thématiques économiques, les résultats de l'économie américaine pour un Américain ne sont pas très brillants. Et donc, s'il se polarisait plus sur les questions économiques, ça pourrait fragiliser la position d'Hillary Clinton. Pour l'instant, vous avez vu, c'est pas son choix. Il parle encore beaucoup d'identité, de questions de sécurité, ce qui n'est pas en premier ce qu'attendent l'électorat américain. Pour faire simple, il est en train de convaincre un électorat qu'il a déjà convaincu. Ces Américains ne pourront pas voter 2-3 fois. Donc, il faut qu'il élargisse son électorat. Pour l'instant, il ne parvient pas à élargir son électorat.
Philippe Golub, votre point de vue, vous, Américain.
D'abord, j'ai beaucoup de mal à dire Trump avec un accent français, donc je dirais Trump, Clinton, parce que j'ai du mal à le faire autrement.
Donc, personne ne vous le demande. Hein.
Je pense effectivement qu'on est dans un moment d'indécision, puisque ni Hillary Clinton ni Donald Trump ne réussissent à mobiliser, à galvaniser la population américaine ou une majorité significative de la population américaine, contrairement à Barack Obama qui avait à la fois du charisme, de l'intelligence, la nouveauté et un programme économique pour sortir les États-Unis de la crise, de la grande crise, de la grande récession de 2007-2008. Je pense que ce qui est sous-jacent ici, et François Durper a souligné quelque chose qui me semble important, parce que que c'est un phénomène transatlantique et peut-être plus large d'ailleurs, c'est que la grande crise de 2007-2008 en fait n'a jamais été fondamentalement résolue. Et la population américaine, que ce soit les couches sociales moyennes, la classe ouvrière blanche, les pauvres ou même les classes moyennes traditionnelles américaines dont les revenus stagnent depuis très longtemps, ont été fortement affectées par la crise de 2008 aux États-Unis, 2009 et puis en Europe plus tard, et qu'il y a un résidu à la fois de colère, d'angoisse sociale qui se traduit au niveau politique. Et sur cette question-là, Hillary Clinton ne mobilise pas et ne sait pas mobiliser. Elle représente d'autres élites politiques. Elle ne peut pas faire ce que Bernie Sanders a fait quand même avec beaucoup de succès, me semble-t-il. On n'en parle plus, mais Bernie Sanders a quand même su mobiliser très fortement et galvaniser une jeunesse américaine dont les perspectives sociales et économiques sont bloquées pour l'instant. Donc je pense que c'est cette question-là, au fond, cette question-là, non pas les questions d'identité. Je pense que Trump se trompe en se focalisant sur les questions exclusivement identitaires, parce que la question économique et sociale est à la base du questionnement de la population américaine.
On va revenir tout à l'heure sur Hillary Clinton, mais d'abord par rapport à Trump. Si on revient un peu en arrière, est-ce que vous avez été surpris tous les trois par les résultats de la primaire républicaine, Jean-Éric Brana?
Je vais être prétentieux en vous disant que je n'ai pas été surpris, mais c'est vrai que Donald Trump avait révélé au monde quelque chose qui était devant nous depuis très longtemps, à savoir que ce parti républicain était en grande division depuis 2012, qu'il n'arrivait pas à se sortir de ces difficultés-là, avec 5 grands groupes, pour faire simple, qui se battaient abondamment entre eux, mais qui se battaient également contre Barack Obama. Ça faisait beaucoup de batailles, tout ça, qui a repoussé les gens loin de la politique, parce que le spectacle qui était donné aux États-Unis n'était pas un spectacle très enthousiasmant. Donc Trump, qui est un instinctif, qui est un peu comme quelqu'un dans un café, hein, qui écoute ce qui se dit à droite à gauche, qui ramasse toutes ses phrases et qui en a fait son argumentaire politique, a trouvé du répondant, puisque les phrases qu'il prononçait, c'était celles qui se prononçaient dans la rue. Donc je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, Donald Trump s'est mis à parler de social, il s'est mis à parler d'économie de base, hein, celle de la rue, pas de macroéconomie ou de choses très complexes. Mais c'est quelque chose qui parle aux Américains. Rendez-vous compte, pour faire très simple et sans rentrer dans des chiffres assommants, le salaire minimum aux États-Unis est à 7,25 $. Qui peut vivre avec 7,25 $ de l'heure aujourd'hui? Quasiment personne. Il n'y a que 4 millions des Américains qui vivent avec cette somme-là. Mais le côté symbolique de ce salaire minimum n'a jamais été réglé par Barack Obama, qui s'est trouvé au bout de 2 ans avec un congrès hostile. Et toutes ces propositions, en 2012 à 9 $, en 2014 à 10 $, se sont trouvées face à une opposition très féroce du congrès et des républicains qui l'empêchaient d'avoir ce correctif qui aurait effectivement eu un effet auprès de la population et qui a au contraire jeté dans la désespérance une classe ouvrière qui n'était plus écoutée par personne, qui se démenait avec la crise, qui n'arrive pas par exemple à faire un prêt pour acheter une maison. On sait aujourd'hui un autre chiffre qui est symbolique, que les maisons de plus de 250 000 $ se vendent très très bien aux États-Unis. Ce sont celles en dessous de 200 000 $ qui ne se vendent pas, c'est-à-dire la maison des pauvres qui n'arrive pas à la vendre parce qu'elle devrait être achetée par un autre pauvre qui n'arrive pas à obtenir son prêt. Et cela touche qui ? Les blancs pauvres, les classes communautaires les plus pauvres, les noirs, les hispaniques, qui se trouvent effectivement sans répondant politique et qui tombent dans le tous pourri que l'on connaît. Et là, je rejoins François Durper qui disait que c'était un phénomène transatlantique parce qu'on est dans le même phénomène. Une classe politique qui a oublié d'écouter ces populations-là, se concentrant sur une évolution naturelle dans la société, qui est quoi ? Une révolution technologique, robotique, une évolution des mœurs qui a accompagné ce mouvement-là, qui touche des classes plus diplômées, qui peuvent évoluer, que l'on trouve aux États-Unis sur les deux côtes, Atlantique et Pacifique, et qui a délaissé aux États-Unis complètement les 90% de territoires qui se trouvent au centre et qui se trouvaient sans politiciens forts qui pouvaient leur répondre. Voilà à quoi a répondu Donald Trump, donc c'était pas une surprise.
Vous êtes d'accord, Philippe Goloub, le Parti républicain s'est complètement coupé de la classe ouvrière, de la classe moyenne?
La classe ouvrière depuis longtemps, des classes moyennes plus récemment, s'est coupé de toute une série série de réalités sociologiques profondes des transformations de la société américaine, que ce soit l'immigration de masse venue d'Amérique latine, que ce soit la nécessité de reconfigurer leur politique économique et sociale, etc. Je veux dire, les élites du Parti républicain étant très, très proches des grands milieux d'affaires, des grands milieux financiers américains, n'ont pas vraiment su apprécier et reconnaître ce qui se passait dans la société elle-même, au plus profond de la société, n'est-ce pas? Traditionnellement, le parti républicain, c'est le parti de la grande industrie, le parti du big business, n'est-ce pas? Depuis la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est resté le parti du big business. Il y a cet autre groupement ou groupement sociologique au sein du parti qui a toujours été la classe ouvrière blanche à cause des divisions raciales, à cause des distinctions ethnico-raciales aux États-Unis. Le parti républicain a su mobiliser les classes ouvrières blanches souvent autour de discours raciaux. C'est ce que Nixon a fait avec sa stratégie du Sud aux États-Unis. C'est ce que tous les présidents républicains ont fait successivement. Donc, mais cette base-là, ils l'ont délaissée. Ils ont gardé le discours racialisant, ils ont gardé le discours identitaire, mais ils ont délaissé économiquement et socialement cette base-là que les Tea Parties ont commencé à mobiliser et que Trump, aujourd'hui, s'est mobilisé mieux que les Tea Parties. Alors, il est très, très mal informé du point de vue de ses connaissances économiques et politiques. Quand il parle du libre-échange, il ne sait pas exactement de quoi il parle, même s'il touche une corde très sensible auprès des Américains, n'est-ce pas? Trump ne dit pas que ce sont les compagnies transnationales américaines elles-mêmes qui sont à la source à la fois des délocalisations, du changement de la configuration de la géographie mondiale, des échanges et tout ça. Il ne le dit pas, il dit c'est la Chine. Mais il y a une partie de l'électorat américain qui est très sensible à ça, qui pense que leur déclassement est dû au libre-échange. Quand il parle des immigrés comme mettant de la pression sur les bas salaires américains, il dit une semi-vérité, n'est-ce pas? Tout est dans la semi-vérité. Il y a des parts de vérité qu'il mobilise, il ne sait pas, il est instinctif, je suis d'accord avec vous, il ne sait pas exactement les raisonnements qui sont derrière tout ça, mais il mobilise avec succès ces angoisses-là, ces difficultés-là, d'une partie de la base du Parti républicain qui n'est pas le big business, mais les couches moyennes et inférieures blanches du pays qui se sentent perdues dans la mondialisation et qui se sentent perdues dans les transformations culturelles et politiques de ces dernières décennies.
François Durpère, est-ce que Donald Trump peut être élu sans l'électorat noir qui continue à voter massivement démocrate et pourtant cet électorat noir a quand même le sentiment d'avoir été un peu oublié pendant les années Obama, non ?
Ah oui, bien sûr, Donald Trump a été élu sans l'électorat noir, parce que les républicains sont élus sans l'électorat noir depuis les années 60, donc ça, c'est absolument pas un enjeu.
Mais aujourd'hui, les minorités, le poids des minorités,
A augmenté. À les hispaniques, par exemple.
Les hispaniques.
Parce que les afro-américains votent pour les démocrates. Les hispaniques, c'est plus partagé. Donc c'est vrai que c'est une occasion ratée un peu pour les républicains, parce que quand on regarde la relation entre Hillary Clinton et les Latinos English Dominants, ceux qui parlent anglais, ceux qui sont nés aux États-Unis, les citoyens américains, elle a une position très fragile, elle n'est pas très populaire, Hillary Clinton. Sauf qu'elle redevient populaire face à Donald Trump. Donc on imagine ce qu'un républicain comme Marco Rubio, comme Ted Cruz, ou même comme tout autre républicain qui n'aurait pas pendant 15 mois insulté les hispaniques, aurait pu faire face à Hillary Clinton. Mais je veux quand même d'un mot répondre à la même question que mes petits camarades, c'est-à-dire, est-ce que c'est un échec pour le Parti républicain? Et de mon point de vue, pour trois raisons. La première, c'est qu'il y a eu une très mauvaise campagne de fait des autres candidats. Si vous regardez Jeb Bush, il a fait campagne sur son bilan en Floride. Les gens s'en fichaient un peu du bilan en Floride quand vous voulez devenir président. Qu'est-ce que sur son bilan dans l'Ohio, etc. Lui s'est adressé directement aux Américains. Et pour cause, il n'avait pas de bilan à défendre. Il a été élu de rien du tout. Première chose. Deuxième chose, c'est l'establishment qui ne s'est pas clairement mis derrière un candidat. Et notamment, lorsque Jeb Bush, Marco Rubio sont sortis du jeu, le neveu Trump était aussi un neveu Cruz. Donc, en divisant les forces, Trump avait, pour de bonnes raisons, mais si vous voulez, l'establishment n'a pas fait ce choix qui aurait pu peut-être inverser les choses. Et puis, la troisième, c'est évidemment le contenu. Ce sont les thématiques qui sont avancées. Et c'est pas qu'une question de forme, Trump. C'est ce discours anti-mondialisation, comme on le disait, qui paye aujourd'hui, notamment dans cette white working class. En revanche, cette coupure entre Donald Trump et l'establishment républicain, on le voit, continue à peser dans la campagne, puisque Hillary Clinton fait très très clairement campagne pour gagner l'élection contre Donald Trump. Donald Trump fait campagne contre Hillary Clinton et il continue à faire campagne contre les élites des deux côtés, c'est-à-dire les élites démocrates, mais aussi l'establishment républicain. Et ça, ça peut coûter cher, notamment en termes financiers. Vous aurez remarqué que l'association des gouverneurs républicains lève de l'argent aujourd'hui, mais elle lève de l'argent pourquoi ? Elle lève de l'argent pour l'Indiana, pour que le gouverneur de l'Indiana soit républicain. Elle lève de l'argent dans un certain nombre d'États, comme le Missouri, où on a peur que le gouverneur ne soit pas républicain. Donc, ce qui peut se profiler, c'est une évolution un peu à la 1996, vous savez, au moment où le Parti républicain s'est dit que Bob Dole n'avait plus les chances de gagner contre Bill Clinton, et s'est mis à se dire, le meilleur adversaire contre Bill Clinton, ça sera le Congrès, ça sera les sénateurs, ce sera les représentants. Et si les républicains se disent, nous allons mettre l'argent du côté du Congrès, du côté de l'élection pour nos gouverneurs, eh bien, la publicité négative ne suffira peut-être pas forcément. Vous savez, Donald Trump est celui qui dit, il n'y a pas de mauvaise publicité. Tout le monde connaît cet adage aux États-Unis. On va voir avec l'élection américaine, pour la première fois peut-être de manière aussi forte, est-ce qu'effectivement il n'y a pas de mauvaise publicité ? Parce que il a beaucoup de publicité depuis le départ de Donald Trump, de la télévision gratuite, non maîtrisée. On parle de lui, d'ailleurs vous avez commencé par parler de Donald Trump et ensuite on parlera d'Hillary Clinton. C'est ce que fait aussi peut-être la presse américaine. Mais lui pense que c'est un atout et ce n'est pas nécessairement un atout.
Jean-Éric Brana, vous êtes d'accord ?
Je voulais surtout prolonger votre question sur les immigrés et les immigrants, parce que ça me semble particulièrement la clé de l'élection cette fois-ci. Ce que n'a pas dit François, c'est qu'on est dans un contexte américain avec deux populations qui seront vraiment un enjeu, les hispaniques et les Afro-Américains. Les Hispaniques, pourquoi ce qu'a fait Donald Trump n'est pas vraiment un problème vis-à-vis de cette population ? Parce que on a une immigration qui a été continue aux États-Unis pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Ceux qui sont installés aujourd'hui dans les États du Sud ont vu arriver les nouveaux, pas toujours avec un bon œil, parce que le nouvel immigrant accepte n'importe quel travail, n'importe quelle condition. Vous savez, quand vous vous soldez à $50 la journée, alors que le petit copain qui n'a aucune qualification non plus se soldait normalement déjà à $80 la journée et n'arrivait pas à finir sa fin de mois, vous doutez bien que celui qui voit arriver le nouveau ne le voit pas d'un très bon œil. Or, Donald Trump est en train de les draguer quelque part en disant « Mais vous savez, je suis pas anti-mexicain, je suis contre ceux qui arrivent illégalement et qui vous piquent votre boulot ». Donc il s'adressait directement à eux. Et le président mexicain lui a fait un formidable cadeau dernièrement en l'invitant et en le... Justement,
En le laissant parler, sans maudire.
Sans lui reprocher quoi que ce soit. Ce qui lui a permis, dans la capitale du Mexique, de dire « Mais moi, j'aime les Mexicains, vous êtes un grand peuple, j'ai aucun problème avec vous. »
Mais je veux construire ce grand mur.
Exactement, ce qu'il a répété, c'est ce que j'allais dire, ce qu'il a répété 2 heures après à Phoenix en disant « Mais je veux quand même construire un grand mur parce qu'il y en a parmi vous qui sont pas forcément bien accueillis. » Or, cette parole-là, et contrairement à ce qu'on pense, très bien accueilli par beaucoup de Mexicains dans les États du Sud.
Quel indicateur disant que c'est très bien accueilli ? Parce que ça, c'est le discours de Donald Trump. Il n'y a aucun indicateur.
C'est très bien accueilli parce que...
Il a été au Mexique et il s'est mis derrière un président qui est le président mexicain le plus impopulaire depuis des années. Donc son voyage, on le voit bien, n'a pas payé pour l'instant. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez une candidate fragile, Hillary Clinton, notamment chez les hispaniques dont parle Jean-Éric, c'est-à-dire ces hispaniques citoyens américains. Vous vous rappelez Desperate Housewives, ce couple d'hispaniques qui va essayer de placer sa petite dans une aînée, puis dit, tu diras bien que t'es latino. C'est quoi, maman, un latino? Eh ben, c'est ces hispaniques-là. Mais face à Donald Trump, pour le moment, Donald Trump, le différentiel entre les deux est considérable et, par exemple, beaucoup plus important que Mitt Romney Obama. Il fait beaucoup moins parmi ces hispaniques.
Ah, ça c'est vrai.
Mitt Romney Obama. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que les hispaniques, ça peut peser dans cette élection. Il y a juste quelque chose à noter. Hillary Clinton ne fait pas de pub en espagnol. Parce qu'elle a les hispaniques aujourd'hui.
Son vice-président fait en espagnol.
Mais ils ont enclenché la campagne auprès des hispaniques beaucoup plus tard qu'Obama il y a 4 ans. Ce qui montre bien qu'elle sait que face à Donald Trump est un cadeau électoral.
Si tu me permets,
des minorités.
On va faire une pause.
Le temps passe très vite. On va faire une pause. On se retrouve pour discuter de la campagne électorale américaine juste après le journal sur RFI.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Suite de Géopolitique consacrée aujourd'hui à la campagne présidentielle américaine, à 2 mois du scrutin. Autour de moi pour en parler, Jean-Philippe Golub, Jean-Éric Brana et François Durpère. On parlait juste avant le journal, Jean-Éric Brana, du vote latino. Vous n'étiez pas d'accord avec François Durpère sur le vote latino. Pour vous, Donald Trump ne s'est pas forcément tiré une balle dans le pied avec ses propos sur le Mexique, sur ce grand mur qu'il veut ériger à la frontière entre les deux pays.
Non, il ne s'est pas forcément tiré une balle dans le pied, mais surtout, il essaie de draguer les communautés parce que c'est le point fort d'Hillary Clinton. Et il y a quelque chose de très frappant actuellement, c'est la drague assidue qu'il mène vis-à-vis des Afro-Américains. On a vu depuis 15 jours qu'il assiste à beaucoup d'événements, qu'il leur parle directement en leur disant, écoutez, pendant 8 ans, il ne s'est rien passé, on vous avait promis une société post-raciale avec l'arrivée du premier président noir, et vous avez vu que ça ne s'est pas très bien passé. La preuve, c'est l'émergence de mouvements comme Black Lives Matter, qui montre bien que personne n'a été capable de résoudre ces problèmes raciaux aux États-Unis, donc vous n'avez rien à perdre en votant pour moi. Pourquoi fait-il cela ? Tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Philippe ou François qui expliquait que 90% des Afro-Américains votaient pour Hillary Clinton. C'est justement ce chiffre-là qui doit faire peur, parce que si ce chiffre-là se dégonfle, si Donald Trump arrive à semer un doute suffisamment fort dans l'esprit de cet électorat, non pas pour qu'il vote pour lui, mais pour qu'il n'aille pas voter pour Hillary Clinton, Hillary Clinton perdra dans beaucoup d'États, parce que c'est très serré, et c'est la forte mobilisation de ces communautés qui va faire qu'elle pourra être élue dans beaucoup d'États.
Philippe Golub, vous êtes d'accord ?
Je ne peux pas prévoir ça, une baisse très sensible du vote afro-américain pour le Parti démocrate. Le Parti démocrate a toujours su mobiliser la très vaste majorité du vote afro-américain, 95% ou 92% sous Obama, ce sera sans doute 90% aujourd'hui. On l'a bien vu d'ailleurs dans les primaires du Parti démocrate. Il y a les Clinton, la famille Clinton a des liens très puissants avec les élites des communautés afro-américaines. Et je ne vois pas une baisse de ce soutien. Quant aux hispaniques, je ne vois pas non plus comment le candidat Trump, après tout ce qu'il a dit, sauf revirement radical qui mettrait en cause une partie de son électorat blanc, effectivement, dans le cœur et le sud des États-Unis, comment il pourrait mobiliser le vote latino. Donc là, je ne pense pas qu'il peut agrandir Trump de façon significative sa base dans ces deux communautés. Ce qu'il peut faire, c'est tenter de faire, mais je ne sais pas s'il en est capable, puisque c'est un politicien d'instinct, de développer un discours qui soit un tout petit peu plus englobant, un peu plus générateur de l'idée qu'il y a une communauté nationale. Mais pour l'instant, il ne parle pas de communauté nationale. Il ne peut pas mobiliser, me semble-t-il, les minorités derrière lui.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, Hillary Clinton reste très impopulaire. C'est quoi sa faiblesse principale aujourd'hui ? Est-ce que c'est le fait qu'elle n'a pas de grands projets, de projets porteurs pour le pays, alors que Trump, lui, promet de redonner à l'Amérique sa grandeur ? François Durpère, par exemple.
Alors, les deux handicaps, on les voit bien en ce moment. C'est à la fois le scandale des emails et c'est les interrogations liées à sa fondation, et notamment sur le rôle de sa fondation pendant qu'elle était secrétaire d'État, c'est-à-dire les éventuelles possibilités de conflits d'intérêts.
Et il y a aussi l'attaque contre le consulat américain de Benghazi.
Benghazi, voilà. Mais surtout l'affaire des emails, parce que ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'emails qu'elle n'a pas déversés.
Oui, il faut rappeler qu'elle avait gardé donc sa messagerie privée, alors qu'elle était secrétaire d'État.
Oui, puis surtout ensuite, si vous voulez, elle a donné un certain nombre d'emails privés, elle n'a pas tout donné, donc si vous voulez,
oui,
tout au long de la campagne, vous lisez la presse américaine et vous apprenez tous les deux jours, tiens, il y a encore cet email, il y a encore ça, et à chaque fois la question qui se pose, est-ce que ça a pu avoir des conséquences sur la sécurité de notre pays ? Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui pollue la campagne d'Hillary Clinton. Maintenant, la question que vous faites bien de poser comme ça, c'est est-ce qu'elle a une vision pour le pays ? Pour le moment, elle a vu, je crois, les journalistes en conférence de presse une fois en 9 mois, et elle fait pas de grands meetings. Vous avez pas vu comme Obama il y a 8 ans, même il y a 4 ans, ces grands meetings avec des milliers de personnes, même ce que fait Donald Trump. Donc vous avez une hyperactivité du côté de Donald Trump et une hypoactivité du côté d'Hillary Clinton. Comme si sa campagne consistait à dire, écoutez, ça va pas se jouer sur moi, ça va se jouer sur la personnalité de Donald Trump. Je suis la personne qui sépare le bureau ovale de Donald Trump. Donc c'est une campagne qui peut apparaître paraître risquée, mais c'est aussi peut-être la seule campagne gagnante pour une Hillary Clinton qui, ce n'est pas une question de sympathie, c'est une question d'absence de confiance des Américains. Encore plus de 60% des Américains n'ont pas confiance en elle. Donc heureusement qu'elle a face à elle quelqu'un dont se pose non pas la question « sera-t-il un bon président ?» mais « peut-il être président ?» Il y a quand même une chance, c'est ce qui s'est passé lors des conventions. Et vous avez vu, les sondages aujourd'hui sont revenus à la situation antérieure aux conventions de juillet. Qu'est-ce qui s'est passé lors des conventions et qu'est-ce qui a provoqué l'extraordinaire rebond d'Hillary Clinton et le décrochage de Donald Trump pendant l'été? C'est l'image des époux Khan. Qu'est-ce que ça veut dire?
Les parents d'un soldat
d'origine pakistanaise, américain, mort au combat en Irak, et qui brandissent la Constitution américaine et disent à Donald Trump, en gros, si vous aviez été président, nous ne serions pas rentrés aux États-Unis. Notre fils américain, musulman, n'aurait pas pu se sacrifier pour le pays. C'est-à-dire que face à la proposition de Donald Trump, c'est-à-dire « je suis la nation et Hillary Clinton est le monde », Hillary Clinton a proposé lors de la convention une sorte de patriotisme d'inclusion, qui est une sorte presque de leçon pour tous ceux qui veulent battre ce nationalisme populiste. Et donc, on voit bien que ça a creusé entre les deux. Maintenant, l'image de Khan commence à s'estomper. Mais si vous voulez, là, elle a quand même construit quelque chose autour de l'idée « je suis celle qui va construire des passerelles et lui est celui qui va construire des murs ». Alors, en même temps, c'est quand même Donald Trump qui a impulsé sa vision du pays, c'est-à-dire un patriotisme extrêmement pessimiste. C'est du côté d'Hillary Clinton, une candidate beaucoup plus optimiste. On dit habituellement que le candidat optimiste qui propose aux Américains la voie la plus optimiste est le candidat qui l'emporte. Sauf que lorsqu'on regarde le diagnostic fait par les Américains de leur propre société, bien pour le moment, les Américains partagent plutôt le diagnostic de Donald Trump. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont voter pour lui, mais vous avez une majorité d'Américains qui dit « le pays ne va pas bien ».
Philippe Golub, sur le Proche-Orient, on a assisté ces derniers jours à des joutes verbales entre Donald Trump et Hillary Clinton à distance. Elle accuse Donald Trump de ne pas avoir de plan pour lutter contre le groupe État islamique, alors qu'elle vient d'affirmer que sa priorité c'était la capture d'Al-Baghdadi. Est-ce que ça peut jouer auprès de l'électorat américain, ou est-ce que vraiment c'est trop loin pour qu'ils se sentent concernés? Est-ce que le manque d'aptitude à maîtriser la politique étrangère, est-ce que c'est un argument qui peut influer sur l'électorat?
Je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. Il y a depuis des années maintenant une lassitude très grande et grandissante au sein de la population américaine envers les aventures extérieures, les interventions extérieures américaines répétitives, que ce soit dans le Golfe arabo-persique ou au Moyen-Orient, qui ont conduit, comme on le sait, depuis l'Irak en 2003, encore plus que pour l'Afghanistan en 2001, à des échecs répétés, à une perte très importante à la fois de crédibilité, de fond et évidemment de morts d'hommes et de femmes. Donc il y a une lassitude qui s'est exprimée tout au long de ces dernières années. On l'avait vu très bien dans le fait que Barack Obama, là-dessus, a correctement interprété le sentiment plus large de la population américaine que les États-Unis devaient reconfigurer leur politique internationale dans une autre direction, ce que Hillary Clinton semble vouloir remettre en question. Il me semble que c'est important de noter qu'il y a deux nationalismes américains ici, en présence. Il y a le nationalisme, disons, exclusif que représente Donald Trump. Le mot populisme, me semble-t-il, est un mot beaucoup trop vague pour essayer d'expliquer ce genre de phénomène, et qui mobilise l'idée des États-Unis comme acteurs autonomes dans un monde dont les contraintes sont devenues trop fortes et qui devraient être brisées. Et de l'autre côté, un autre nationalisme qui est expansionniste à la fois économique et politique et qui ouvertement affirme la primauté des États-Unis dans le système international. Quand Hillary Clinton dit la semaine dernière « nous sommes la nation indispensable », Hillary Clinton a une vision de la politique internationale qui est une vision interventionniste que beaucoup d'Américains ne partagent pas, que ce soit les gens qui ont voté pour Bernie Sanders, que ce soit la base électorale auquel Trump fait appel. Et nous avons là donc deux visions d'une politique de puissance qui sont en contention en quelque sorte, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit vis-à-vis de la Russie. On voit bien la distinction entre Trump et Clinton sur la Russie, que côté Trump, c'est un peu crude.
Il reste les louanges de Vladimir Poutine.
Oui, je suis copain de Vladimir Poutine, il sait régler les choses, bon, etc. Mais il y a des vraies distinctions qui s'opèrent. Clinton n'est pas du tout dans la coopération internationale nécessairement. Elle est pour l'interdépendance économique, pour la transaction globalisée, mais en même temps, elle est pour l'interventionnisme américain à l'extérieur au nom d'une certaine vision de la primauté américaine européenne et du rôle des États-Unis dans le monde. Donc on est là dans deux visions différentes de politique de puissance.
Mais sur quoi va se jouer la campagne dans les dernières semaines, dans la dernière ligne droite, selon vous, François Durpaire? Est-ce qu'il faudra attendre le premier débat entre les deux candidats pour avoir une petite idée?
Les campagnes précédentes sont toujours jouées sur les questions socio-économiques et pas sur les questions de politique étrangère. Alors évidemment, après, l'historien sait qu'il n'y a pas de loi de l'histoire et que ça peut changer.
Sauf avec Bush.
Alors Bush, après tout dépend de ce qu'on appelle politique étrangère. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue, Bush, ça s'est plus joué sur la question de la sécurité nationale, étendue à, évidemment à des guerres à l'étranger, mais c'est plus de se dire, il y a notre frère qui va partir, il y a notre... Faut défendre notre homeland security. Donc si vous voulez, c'est la politique étrangère, mais à la maison. Vous voyez, même en 1960, quand on était dans la période des indépendances africaines, lorsque John Fitzgerald Kennedy parlait de l'indépendance de l'Afrique, c'était pour séduire la communauté afro-américaine. Il y a toujours des enjeux, si vous voulez, de politique nationale. Donc probablement plutôt la question socio-économique. Et le premier débat le 26 septembre sera intéressant parce qu'on a vraiment ce choc de personnalité. Alors on parlera pas de politique étrangère lors du premier débat, mais est-ce que en politique étrangère, lui, évidemment, si on regarde dans le fond de sa politique étrangère, même America First, il l'utilise un peu comme ce que ça veut dire sur le plan historique, hein, isolationnisme, mais il l'utilise aussi pour désigner des interventions à l'étranger. Donc c'est assez confus. Sa politique à l'égard de l'Iran, on comprend pas comment il peut à la fois se rapprocher de Poutine et tenir les propos qu'il tient sur l'Iran. C'est quand même extrêmement confus. Mais est-ce que l'Américain moyen va plutôt garder en tête « tough, weak » moi, je serais très très fort, et puis tous les autres, ils sont très très faibles. Et regardez Obama, le faible, lui, il a affaibli la politique de notre pays. Ça, si vous voulez, c'est. Mais ça sera probablement quand même la question socio-économique. C'est pour ça qu'il a intérêt, lui, à nous parler d'économie, détailler son programme économique. Il doit battre Hillary Clinton sur cette question économique. Et pour l'instant, dans les indicateurs, il apparaît comme celui qui pourrait mieux faire quand même.
Jean-Éric Branaïa, une chose dont on n'a pas parlé, ce sont les candidats des petits partis, donc le parti libertarien et le parti vert. Est-ce que ces deux candidats pourraient surfer sur les réticences suscitées par les candidatures Trump et Clinton?
C'est ce que beaucoup ont cru ou ont espéré, puisqu'on nous a parlé de, effectivement, la bulle Jill Stein pour le Parti Vert et la bulle Gary Johnson pour le Parti Libertarien. Et puis on s'aperçoit qu'il se passe pas grand-chose et que l'été a plutôt prouvé que c'était le contraire. Aujourd'hui, Jill Stein est à 5%, Gary Johnson à 10%. Pour le dernier, il aurait bien aimé arriver à 15%, puisque cela lui aurait donné le droit de participer au débat télévisé et donc d'avoir une audience nationale. Mais ça n'arrivera pas. Là, maintenant, on est lancé dans la campagne. Une campagne américaine commence traditionnellement le jour de Labor Day, la fête du travail, début septembre aux États-Unis, et c'est très très court, hein, 2 mois. On est donc face à un bolide qui est lancé à fond sur l'autoroute. On peut plus prendre le train en marche. Là, il y a ceux qui sont partis et qui sont dedans, et les autres qui sont loin derrière. Et ils vont rester loin derrière. Je rejoins complètement l'analyse de François Durpaire. Pour les thématiques, ne serait-ce que ça, vous voyez, Jill Stein et Gary Johnson, évidemment, ont des thématiques un petit peu différentes, particulière, des demandes un peu plus sociales, un peu plus environnementales, beaucoup plus environnementales pour Jill Stein. Mais c'est pas ces questions-là maintenant qui vont intéresser les Américains. Ils ont face à eux deux personnalités très fortes, deux blocs très forts qui s'affrontent, et ils vont retrouver tout à fait naturellement les thématiques traditionnelles qui apparaissent dans toutes les campagnes américaines. La première d'entre elles, effectivement, la question économique qui est dans le cœur de campagne, comme le faisait marqué Philippe tout au début de notre intervention, parce qu'elle est là, derrière les questions identitaires, derrière tout ce que vous voulez. Donc elle va réapparaître très rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement demain? Et à ce jeu-là, moi j'ai envie de dire que Hillary Clinton est en faiblesse. Si vous écoutez ses propositions, notamment tout à l'heure on parlait de Bernie Sanders en disant c'est monté très fort, mais c'était un leurre, qui proposait par exemple dans ses multi-propositions un salaire fédéral minimum à $15, puisqu'on parlait de cette question tout à l'heure. C'est formidable, mais il n'en a pas les moyens. C'est le Congrès qui décide. Hillary Clinton, aujourd'hui, qui avait une proposition au début à $10.50, nous propose également à $15. Mais elle n'a pas la possibilité. On a vu dans le courant de l'été, c'était un petit peu corrigé. Elle disait, je vais le monter pour les fonctionnaires, parce que ça, elle peut le faire par décret. Ce sera de $1 ou $2 supplémentaires, et peut-être même étalé sur les 4 ans de son mandat. Donc on est face à un leurre, parce que que ce soit Hillary Clinton ou Donald Trump, de toute façon, il faudra regarder également derrière qui est au Congrès, qui tient le Sénat et qui tient la Chambre des représentants pour savoir ce que va faire le président. Alors les thématiques vont être comme d'habitude, les mêmes. On va avoir effectivement la question économique qui va être devant, des questions sécurité qui vont venir très fortement parce que Donald Trump a réussi à les placer dans la campagne pendant les primaires de façon très forte et qu'il a été beaucoup plus assourdissant dans sa demande que Hillary Clinton avec des demandes sociales. Donc il va mener la barque de ce côté-là sur ces questions-là.
J'ai une dernière question. Trump a déjà prédit une élection truquée le 8 novembre et il faut rappeler qu'en 2012, 31% seulement des Américains disaient avoir confiance dans le dépouillement des votes. Philippe Golub, ça laisse présager un lendemain d'élection contestée ou mouvementée?
C'est-à-dire que si Trump perd les élections, il va, me semble-t-il, d'après ce qu'il a dit, crier sur tous les toits d'ailleurs, sur le fait que les élections auraient été truquées. Et c'est ce que je disais avant sur le style paranoïaque de la politique américaine, de l'extrême droite américaine, n'est-ce pas, où ce genre d'accusation est mobilisé à des fins politiques. Il peut créer des dissensions, il peut créer des difficultés importantes. Reste que le système institutionnel américain est fort, est stable, il y a une Cour suprême, il y a les institutions, on a bien vu... pour le malheur du Parti démocrate, d'ailleurs, en 2000, lors de l'élection de George W. Bush. George W. Bush a perdu l'élection au niveau du vote populaire national. Il n'est pas tout à fait sûr qu'il ait gagné en Floride, puisqu'on n'a pas pu recompter les voix du fait d'une décision de la Cour suprême à ce moment-là. Mais les institutions ont tenu, en dépit des difficultés, des discussions, du débat autour de la légitimité de ce vote. Cette fois-ci, ça pourrait être plus tendu, puisque Trump a tendu la politique américaine, a créé une tension forte dans la politique américaine, mais il me semble que les institutions tiendront.
Vous évoquiez la Floride et donc la contestation du dépouillement à l'époque. Est-ce que c'est dans l'air d'une refonte du système électoral ou pas du tout?
Ah oui, c'est proposé même Jean-Yves très régulièrement. Alain. Hillary Clinton l'avait proposé il y a 8 ans. Il y a un vrai débat sur le collège électoral parce que cette question du collège électoral n'est pas comprise par les Américains eux-mêmes. Pourtant,
Il faut rappeler brièvement,
collège électoral, c'est le fait que l'on vote par État, puisqu'il y a 50 États aux États-Unis, que c'est une fédération. Donc le vote se fait par État et le gagnant dans un État remporte l'ensemble des grands électeurs, puisque c'est un vote indirect et que ce sont des grands électeurs qui au final choisissent le président des États-Unis.
Ce qui veut dire qu'en fait, majoritaire en voix et perdre
absolument,
la présidentielle.
Mais ça a un fondement. C'est les pères fondateurs de la nation américaine ont voulu que, par exemple, un petit État ne soit pas écarté de la décision. Donc ça permettait, dans un petit État, d'avoir une campagne comme ailleurs, parce que du coup, l'importance de petit État a été augmentée d'autant. Donc c'est ça le fondement de l'idée du collège électoral. Je vois mal comment on pourrait changer ce fondement, parce que on peut le mettre sur une plateforme électorale, c'est un vœu pieux. Le jour où on rentre dans la question constitutionnelle, faut-il changer réellement ce système, le débat constitutionnel viendra sur la table immédiatement, et bien sûr tous les penseurs, tous les intellectuels, tous les politiques mettront en avant cette partie-là. Pour être très clair et très simple, si vous habitez le Dakota du Nord, où il y a très peu d'habitants et beaucoup d'auditeurs savent même pas où ça se trouve, comme beaucoup d'Américains d'ailleurs, vous vous dites que vous avez le droit que votre vote soit pris en compte comme le reste.
Oui, simplement pour Philippe compléter, Collier. Il faudrait une crise institutionnelle de grande envergure, ou une crise politique et institutionnelle de très grande envergure, pour que cette question devienne effectivement une question urgente à résoudre aux États-Unis, n'est-ce pas? Et on ne voit pas pour l'instant des conditions de possibilité d'une transformation de ce genre-là.
Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Jean-Éric Brana, vous avez publié Hillary, une présidente des États-Unis, chez Erol. Vous avez aussi publié Qui veut la peau du Parti républicain, sous-titré L'incroyable Donald Trump aux éditions de Passy. Et vous venez de sortir cette semaine un roman, American Touch, Parlez-moi de vous, aux éditions de Passy. François Durper, on vous doit Le petit Trump illustré par l'exemple aux éditions Nouveau Monde. C'est un florilège des propos à la fois les plus hallucinants, consternants, absurdes de Donald Trump. Et votre histoire des États-Unis vient de ressortir en Que sais-je aux presses universitaires de France. Et puis Philippe Golub, vous êtes l'auteur d'Une autre histoire de la puissance américaine, sortie au Seuil en 2011. Merci à vous, merci à Nathalie Laporte qui a réalisé l'émission et à Véronique Durand qui a coordonné Géopolitique. Bonne semaine à tous.